Très bien. Donc l'idée, c'est faire la présentation à partir de 4 points. Je vais d'abord dire un mot sur donc, la recherche qui est à l'origine de cette présentation, revenir ensuite sur l'apparition de ces plateformes de rencontres et donc poser la question de quelle est l'originalité, la véritable nouveauté de ces plateformes, poser la question de comment on peut expliquer le succès, parce que vous allez voir, il y a eu une vraie diffusion de cette pratique, et ensuite, bien sûr, même si on va parler de sexualité tout au long, revenir de façon plus focalisée sur la question des changements dans la sexualité et les scénarios sexuels en focalisant sur l'hétérosexualité. Donc, je disais, c'est une recherche que je mène depuis longtemps. Et pourquoi ça m'intéresse? Alors, j'ai une double approche. J'ai commencé en 2007. En fait, les applications de rencontres, elles n'existaient pas encore. C'était des sites de rencontres, c'était nouveau. Il y avait vraiment un objectif de comprendre, d'un point de vue sociologique, quelle est la pratique. Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que ça change la manière dont on rencontre des partenaires? Est-ce que ça change qui on rencontre? Donc des questions de sociologie du couple assez classiques, hein, donc une vraie interrogation juste de un peu défricher le terrain. Mais j'ai aussi envisagé ces plateformes comme un terrain, c'est-à-dire pour moi c'était aussi de poser des questions plus larges. Je pense que ces plateformes peuvent nous dire quelque chose sur la transformation de la sexualité. Je les vois un peu comme des miroirs grossissants, c'est-à-dire qu'il nous donne à voir des traits saillants des évolutions de la sexualité et de la conjugalité, et ça m'intéresse aussi en tant que telle. Et j'ai eu une double entrée aussi, je m'y suis d'abord intéressée au marché derrière, les entreprises, les entrepreneurs, leur logique professionnelle, qui évidemment cadre la rencontre, donc je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est juste au titre d'information. Et ensuite, donc, un deuxième volet qui a été plus important sur les usages, en me centrant sur la population hétérosexuelle, et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, la question des usages, je les ai abordés de plusieurs manières, de point de vue empirique. J'ai voulu saisir la pratique à la fois d'en haut et d'en bas, donc un peu une approche micro et macro. Donc, il y a d'abord une enquête par entretien, donc je me suis entretenue avec des usagers de milieux sociaux variés, d'âge varié, pour comprendre comment est-ce qu'on vient à cette pratique et comment est-ce qu'on investit la pratique, quelles sont les aspirations et les expériences. J'ai aussi travaillé à partir de grandes enquêtes en France, donc soit des enquêtes sur la sexualité. Il y en a 3 principalement qui permettent de creuser la question de qui utilise ces plateformes et comment ils l'utilisent. Une enquête sur la sexualité de 2006, une enquête sur la conjugalité en 2013 et une enquête sur la santé en 2016. Et ensuite, une troisième méthode qui est peut-être plus originale, j'ai beaucoup travaillé avec la société Mythique, j'ai eu accès à leur base de données, anonymisée bien sûr, et j'ai pu étudier des modes de présentation de soi, mais aussi les comportements de contact, donc qui contacte qui et qui ne contacte pas qui, c'est-à-dire à la fois quels sont les intérêts et les préférences, mais aussi quels sont les personnes qui se font ignorer, quelles sont les discriminations, les exclusions aussi dans ce jeu de la rencontre. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu des résultats de ces différentes méthodes. Donc, encore une fois, je fais un petit trigger warning que ça va être assez chargé en résultats empiriques, mais donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Donc, d'abord, la question... quand même, il faut se poser, donc, quelle est la nouveauté de ces plateformes? En fait, il faut d'abord, bien sûr, donc, se demander en fait, de quoi on parle. Quand moi, je parle de rencontres en ligne ou de sites d'applications de rencontres, je parle de services numériques qui sont spécifiquement et explicitement organisés en vue de la mise en relation de partenaires amoureux ou sexuels. Donc, ça veut dire Mythique, que vous connaissez peut-être, Tinder, Match, il y en a beaucoup, mais ça veut dire que je n'étudie pas la rencontre en ligne en général. Il peut y avoir des rencontres sur des plateformes comme Facebook, des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, je m'intéresse à des services spécialisés dans la rencontre. La première apparaît en 1995, mais en fait, il y a une vraie histoire longue en fait, de ces services, ces intermédiaires. Les agences matrimoniales apparaissent en Europe au milieu du 19e, les petites annonces aussi. Et en France, comme dans d'autres pays, on va avoir une diffusion des petites annonces dans l'entre-deux-guerres. Et un support important en France, ça va être le chasseur français, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les quotidiens. Et donc, voilà, effectivement, il y a cette histoire des rencontres médiatisées. Et dans les années 80, il y a les premières rencontres sur le réseau. Donc aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle BBS, mais en France, on a eu le Minitel et donc les messageries conviviales qui ont été saisies dans un usage sexuel et affectif. Donc on a fait quelques enquêtes à l'INED pour essayer de mesurer l'usage de ces anciennes formes de rencontres. Et en fait, ce qu'on a vu donc, au milieu des années 80, c'est que c'était une pratique rare finalement. C'est-à-dire, donc, l'enquête de 85, on a interrogé des personnes de 21 à 44 ans et c'était seulement 2% qui disaient qu'ils avaient utilisé une annonce ou une agence. Et à cette époque, c'était juste un couple sur 200 qui s'était formé par ce biais. Et c'était d'ailleurs en fait, plutôt des personnes divorcées ou veuves. Les Minitel et les services téléphoniques, il y a eu une enquête sur la sexualité en 92, on voyait que c'était un usage plus important chez les hommes, mais souvent c'était un usage un peu pour voir, on se connectait pour regarder ce que c'était, mais ça ne donnait pas forcément lieu à un usage investi, et surtout il y avait aussi un usage fantasmatique en fait, du Minitel qui était très, très important. Et donc c'est là, en fait, de mon point de vue, si on veut parler de la nouveauté, en fait, la nouveauté de cette plateforme, ce n'est pas le proposer en soi un service de rencontre, mais c'est que pour la première fois, ça marche. C'est-à-dire pour la première fois, il y a un vrai attrait, pour la première fois, il y a une vraie banalisation de recours à ces services spécialisés. Et je vais vous montrer quelques résultats pour vous donner une idée donc, de la diffusion. Donc, on a une première enquête en 2006. Ici, vous voyez le taux d'usage, donc la part de personnes qui disent « oui, j'ai déjà utilisé un site de rencontre » en 2006. Et alors, les chiffres en soi ne sont pas très importants aujourd'hui, mais en fait, ça nous montre déjà que ce qui est très clair, c'est que c'était les jeunes qui étaient les premiers à utiliser ces services. Parfois, on dit qu'il a fallu attendre les applis pour que les gens se convertissent aux rencontres en ligne. Pas du tout. Mythic, c'était jeunes et branchés en 2006. C'était principalement des jeunes personnes qui étaient dessus. Après, il y a eu des évolutions. Donc, vraiment, c'est une pratique jeune encore aujourd'hui pour des raisons à la fois générationnelles, mais surtout aussi une question d'âge. En 2013, on a une nouvelle enquête qui montre qu'il y a une vraie diffusion dans toutes les catégories d'âge. C'est une enquête qui a interrogé des personnes un peu plus âgées. Donc, on n'a malheureusement pas les chiffres pour les plus jeunes, mais on voit cette diffusion dans tous les groupes d'âge. Une autre question, donc il y a l'âge qui est important, une autre question c'est le sexe. En fait, il y a une idée très courante en fait, qui voudrait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes sur les sites de rencontres parce qu'ils seraient beaucoup plus intéressés par faire des rencontres que les femmes. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui est très juste, c'est que lorsqu'on demande « est-ce que vous êtes déjà inscrit sur un site de rencontres ?», il y a plus d'hommes que de femmes qui disent « oui ». Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes. Et c'est aussi chez les jeunes, comme vous le savez peut-être, en fait, chez les jeunes, il y a beaucoup plus d'hommes célibataires que de femmes parce que les hommes restent, ils se mettent en couple plus tard. Donc cette question a été posée à tout le monde. Donc si on le regarde comme tel, oui, il y a plus d'hommes sur les services, mais on peut aussi regarder le taux d'usage chez les célibataires au moment de l'enquête. Et ce que vous voyez, c'est que lorsqu'on regarde les célibataires, le taux d'usage augmente beaucoup, donc c'est un peu normal. Lorsqu'on n'a pas de partenaire, on est plus souvent sur ces plateformes. Mais surtout, les différences entre les sexes sont très faibles, ne sont pas statistiquement significatives. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les femmes sont moins nombreuses sur ces plateformes, ce n'est pas parce qu'elles sont moins intéressées par les rencontres en ligne, c'est qu'elles sont déjà en couple. Et lorsqu'elles sont célibataires au même titre que les hommes, elles vont sur Internet au même titre que les hommes. Donc il y a un sexe ratio déséquilibré, mais ça n'a rien à voir avec les aspirations. C'est plutôt une question démographique, si vous voulez. Donc ça, c'est un peu des chiffres, un peu un aperçu. Donc vous voyez, l'enquête qu'on a en France, qui est la plus récente, elle est déjà assez ancienne, on est en 2013, et c'était donc, si on regarde les célibataires, 27% qui avaient utilisé ce genre de service. Je vous montre ici aussi des résultats des États-Unis, tout simplement parce que c'était plus récent, et je pense qu'en France, on est sans doute dans une situation assez proche aujourd'hui, où en 2019, c'était 43% des célibataires qui avaient utilisé ce service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la formation des relations? Je vais vous montrer le palmarès des lieux de rencontre en France. Donc, c'est sur une période, encore une fois, assez ancienne, parce que c'est 2005-2013, et à cette époque, les sites de rencontre arrivaient en cinquième position. Donc ça veut dire que, contrairement, parfois on disait que ça a tout remplacé, maintenant il n'y a que des rencontres sur Internet, ce n'était pas vrai, c'est toujours pas vrai. Ça arrivait après le lieu de travail et d'études qui restait très important, après des soirées entre amis, après les rencontres dans les lieux publics ou des cadres privés, et ensuite il y avait les sites de rencontres, mais qui étaient donc devenus plus importants que les rencontres dans les discothèques, par exemple, sur d'autres sites Internet, dans des mariages, des fêtes de famille, dans des cadres associatifs, etc. Et pour finir, vous montrer du coup, moi je pense que depuis, ces plateformes ont grimpé dans le palmarès, et c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Ici, vous avez les résultats d'enquêtes récentes en Allemagne et aux États-Unis, et vous voyez que donc, les applications arrivent en troisième position. Donc les rencontres par les amis et la famille restent le mode de rencontre le plus important, suivi du travail et des études. Mais ensuite arrivent donc ces espaces spécialisés. Donc ça vous donne un peu une idée donc, de la diffusion de cette pratique qui est réelle, mais en fait ça n'a pas non plus complètement remplacé les modes de rencontre ailleurs. Parfois on a un peu une idée qu'il y aurait eu une révolution dans le vrai sens du terme, ce n'est pas le cas. Ça complète, ça s'ajoute, ça ne se substitue pas à d'autres lieux. Quand même, en fait, de mon point de vue, en fait, on peut quand même parler d'une rupture. Alors, je me méfie du mot de révolution, mais il y a vraiment une rupture lorsqu'on regarde l'organisation de la séduction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, historiquement, en tout cas, si on regarde depuis le 19e siècle, en fait, les rencontres ont toujours été intimement associées à la sociabilité ordinaire. C'est-à-dire qu'on se rencontre justement au travail, dans des associations, lors de sorties, lors des loisirs, etc. Il n'y a jamais eu, pour la population hétérosexuelle en tout cas, il n'y a jamais eu d'espace spécifiquement dédié à la rencontre, à l'exception de lieux de rencontre échangistes ou prostitutionnels, etc. Mais la rencontre ordinaire, non. Il y a bien sûr des lieux, on va dire, qui privilégient ou qui sont plutôt des bons lieux de rencontre. Et c'est plus courant de se rencontrer dans un bar que dans un supermarché. Donc, on ne se rencontre pas n'importe où. Mais il n'y a jamais eu de lieu spécialisé. Et ça tient aussi aux imaginaires romantiques. En fait, la rencontre est censée être fortuite. Elle est censée vous tomber dessus. Vous n'êtes pas censé aller le chercher. Donc, en fait, il y a vraiment une confusion entre la géographie sociale et la géographie amoureuse. Et c'est comme ça qu'on a pensé l'amour, en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un vrai changement, parce qu'avec ces applications, on assiste à ce que moi j'appelle un désencastrement des rencontres vis-à-vis des autres sphères sociales. C'est-à-dire qu'avec ces plateformes, la rencontre devient une pratique qui est spatialement circonscrite, temporellement circonscrite et dotée d'une finalité explicite. Donc en fait, on va la prendre cette activité, on va la sortir de la sociabilité, et on va lui donner un espace-temps à part. Et pour moi, ça, c'est vraiment nouveau et ça dit quelque chose sur des changements plus larges. Et de mon point de vue, en fait, moi, j'essaye de mettre un mot sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça change. Pour moi, en fait, je dirais que ça produit une privatisation de la rencontre. C'est-à-dire qu'avec ces plateformes, les rencontres se déroulent en dehors et potentiellement à l'insu du cercle de sociabilité. Donc il y a une dissociation des réseaux sociaux et des réseaux sexuels, mais aussi une vraie discrétion de la rencontre du coup, qui peut se dérouler à l'abri des regards des proches, notamment. Et ça, ça a des implications importantes, et c'est sur ça que je vais me concentrer. Alors, un premier élément important pour moi, c'est qu'en fait, de mon point de vue, cette privatisation, c'est vraiment un facteur clé pour comprendre la popularité de ces espaces et leur succès. Alors, chez les jeunes et chez les moins jeunes, mais pour des raisons un peu différentes. Donc, si on regarde d'abord chez les jeunes, en fait, on a vu au cours des dernières décennies des transformations importantes de la jeunesse qui sont liées au fait qu'il y a un report de la mise en couple, on se met en ménage plus tard, mais en fait, il n'y a pas eu de report de l'entrée dans la sexualité, plutôt le contraire. Donc en fait, en sociologie, on appelle ça souvent l'apparition d'une période de jeunesse sexuelle. C'est pour dire que le premier partenaire sexuel devient moins souvent le premier conjoint. On vit plusieurs histoires, en fait, au cours de la jeunesse, des histoires plus ou moins longues. Il y a une vraie expérimentation et exploration sexuelle à cet âge de la vie. Donc, je parle de les jeunes adultes, 18-25 ans, notamment. Et alors, c'est une période où on le voit très bien aussi dans les enquêtes sociologiques, et je suis sûre que vous aussi, vous le voyez aussi, qu'il y a vraiment des normes un peu d'apprentissage et de découverte que je pense aussi importées de l'école, en fait, et un allongement des études. Donc, il y a cette idée qu'il faut apprendre à se connaître, il faut vivre des choses, avec cette idée parfois qu'il y a aussi une liberté en sursis, parce qu'on sait que cette expérimentation va se terminer, donc il faut en profiter. Donc, il faut vivre sa jeunesse, et ça devient presque une injonction. Donc, on a un usage, en fait, qui est très clair dans les entretiens que j'ai pu conduire avec les jeunes, d'un usage qui est récréatif, certes, mais qui est aussi éducatif, en fait. Donc, je vais vous citer quelques extraits pour, quelque part, donner un peu de chair à ces idées, mais il y a quelque chose qui est très, très présent dans les récits des personnes que j'ai interviewées. Donc, notamment, un usage à l'adolescence qui est dans l'idée d'un peu découvrir le monde des grands et le monde de l'amour, de la sexualité. Donc, ici, c'est Sandy qui raconte que toutes les filles ont essayé un moment, entre copines, de s'inscrire, voir ce qu'il y a, c'est de la curiosité. Parce qu'à aucun moment, je me suis dit que je vais rencontrer quelqu'un. Je devais avoir quelque chose comme 14 ans. Donc non, c'était juste pour voir. Donc on s'inscrit, on fait semblant qu'on a 18 ans, on discute avec des hommes plus âgés. Jamais, en fait, bon, jamais, mais c'est très rare, on le voit dans les enquêtes statistiques, c'est très rare qu'il y a des rencontres qui se réalisent. C'est vraiment une sociabilité sexuelle, apprentissage qui est cantonnée en ligne souvent à l'adolescence. Donc souvent, les jeunes filles vont un peu tester leur attractivité. Chez les hommes, il y a aussi un autre enjeu parce que les rôles sexués sont contrastés. Chez les jeunes hommes, on peut aussi avoir cette idée d'apprendre à draguer. C'est un peu comme un terrain d'entraînement de pouvoir aborder les filles. Donc ici, Grégory qui parle de cette différence, et je pense que vous en avez parlé plus tôt dans la journée, on a vraiment des rôles très différents. C'est vraiment l'homme qui va vers la femme, c'est injuste un peu. Enfin, moi, je me dis ça, mais bon, c'est comme ça de toute façon. Donc je demande, mais est-ce que tu es allé vers quelqu'un sur Internet? Il dit, ben, j'ai essayé de le faire, mais comme je ne l'avais jamais fait, je ne pouvais pas savoir, et justement, j'ai essayé d'apprendre, si tu veux. En fait, il a été dans un cursus technique, très peu de filles dans son entourage, et il va sur Internet pour essayer de voir comment est-ce qu'on aborde les filles. Donc, il y a en fait expérimentation, et vraiment je pense que les plateformes sont très tributaires en fait de cette idée d'apprendre et d'explorer. Et en fait, justement, il s'y prête très bien, parce que justement, il y a cette discrétion qui fait que ce qui se passe sur Internet peut aussi rester sur Internet. Les histoires sur Internet ne font pas d'histoire. Et ça en fait partie de l'attrait de ces plateformes. Et donc, c'est notamment Paul qui parle, parce qu'évidemment, il y a plein de contextes de rencontres, notamment quand on est jeune, mais en fait, ça peut aussi être compliqué. Donc, comme il le dit, ça peut être compliqué de draguer dans des soirées parce que c'est des amis et des amis d'amis. Il y a toujours des histoires et ça pose pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'un tel est sorti avec une telle, ou bien une telle n'aime pas qu'on sort avec une telle. Il y a des ex, etc. En fait, ça complique vachement les choses. Sur Internet, c'est plus simple de rencontrer de nouvelles personnes qui sont vraiment nouvelles, qui sont extérieures à tout ça, avec qui ils ne risquent pas d'avoir d'histoire. C'est-à-dire que ce sont des relations qui engagent moins les gens devant leur entourage. Et ça, un vrai attrait. Ou encore, juste pour donner un exemple, donc ça, c'est aussi des choses qui sortent en fait dans les entretiens. Moi, je me centre sur la population hétérosexuelle, mais ce qui est très clair, c'est que Internet est aujourd'hui aussi un espace d'expérimentation homosexuelle et bisexuelle, c'est-à-dire on aborde aussi des gens qu'on n'oserait pas aborder par ailleurs, bien avant qu'il y ait une identification comme gay et lesbienne, et peut-être sans qu'il n'y ait jamais d'identification gay et lesbienne, justement, on peut pouvoir est-ce que je pourrais être intéressée par exemple par les filles. Donc Camille qui dit qu'elle n'est jamais sortie avec une nana, et elle n'a jamais rien fait avec une nana, et elle en a parlé avec son pote, et lui il a dit qu'il s'est mis au mec, et jamais avant, mais sur Tinder, oui. Et en fait, il les a rencontrés, il a couché avec, et elle s'est dit qu'elle allait essayer, justement. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un aperçu juste de cette expérimentation sexuelle qu'on a aujourd'hui en ligne. Alors, chez les personnes plus âgées, donc séparées, les enjeux sont un peu différents. Donc, bien évidemment, cette forme d'expérimentation, la discrétion de pouvoir vivre des choses, c'est aussi des choses qui peuvent jouer à cet âge-là. Mais à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 50 ans, les enjeux ont aussi changé. Et surtout, les célibataires se trouvent face à cette difficulté nouvelle, tout simplement, à rencontrer de nouvelles personnes. On a de plus en plus de personnes qui sont séparées, une augmentation des ruptures et donc une augmentation de personnes aussi qui sont désireuses de se remettre en couple, sachant qu'en France, 2 ans après une séparation, la moitié des gens sont remis en couple. Donc ça va très vite en fait. Il y a une augmentation des séparations, mais ce n'est pas un affaiblissement de la norme conjugale. L'aspiration à la conjugalité est toujours forte. Sauf que lorsqu'on a donc 30, 40 et a fortiori 50 ans, la plupart des personnes dans l'entourage sont déjà en couple et aussi la sociabilité a changé. Les grandes sorties, on cède la place à des petits dîners avec des gens qu'on connaît déjà. Et ça, en fait, aussi les personnes interviewées plus âgées en parlent longuement. Donc ici, Patricia qui dit « elle n'a pas d'amis autour d'elle qui sont célibataires. Je n'ai que des couples mariés autour de moi. » Donc déjà, je ne peux pas sortir avec une copine célibataire, admettons un samedi soir pour faire un resto ou le week-end quand je n'ai pas les enfants. Je ne peux pas faire ça parce qu'ils sont tous en couple. Après, je vais inviter par mes amis, mais c'est toujours chez eux, avec les mêmes personnes, les mêmes couples. On ne peut pas faire des rencontres. C'est un cercle vicieux. Au Bruno, qui dit que ce n'est pas évident de faire des rencontres quand on a fait le tour de ses amis, il n'y a plus rien qui peut déboucher sur quelque chose de concret, on se dit, on va se mettre sur un site de rencontre. Donc en fait, souvent, dans ces âges-là, mais ça peut être une question générationnelle aussi, il y a un peu une réticence, souvent au début, mais en fait, on se dit, par la force des choses, il faut s'y mettre. C'est aussi des normes un peu volontaristes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'il faut être un peu maître de son destin. Donc si on veut rencontrer quelqu'un, il faut y aller, il faut se motiver, il faut s'engager dans cette démarche. Donc je pense que c'est aussi de nouvelles normes un peu de responsabilité de soi qu'on voit dans le milieu professionnel, mais que je pense existe aussi dans le monde privé. Donc, en fait, je pense que, pour revenir, donc, pourquoi ce succès des plateformes, bien évidemment, il y a des changements sociaux, démographiques larges, très importants, avec cet allongement et renouvellement de célibat au cours de la vie, qui fait qu'il y a cette période de ce que nous, on appelle la jeunesse sexuelle, en début de parcours, avec des normes d'expérimentation, mais aussi donc, l'augmentation des séparations. Ça, c'est un peu le terreau, on va dire, social de la chose. Mais ensuite, je pense que vraiment l'aspect spécificité de ces plateformes joue parce que la discrétion se prête très bien à l'expérimentation et c'est aussi des services qui permettent cet élargissement de vivier des partenaires. Donc encore une fois, j'insiste sur la privatisation parce que pour moi, ce qui plaît beaucoup et attire les gens vers ces plateformes, c'est la possibilité finalement de court-circuiter son entourage pour avoir un accès direct aux partenaires. Et ça a beaucoup d'implications, notamment sur la sexualité. Alors, les changements dans la sexualité, c'est quelque chose qui est très débattu, qui a été très débattu dans la presse, et c'est un sujet qui est largement médiatisé. Je pense que l'angle d'attaque, notamment dans l'univers médiatique des rencontres en ligne, c'est la question de la sexualité, qu'est-ce que ça fait à la sexualité. Et justement, il y a cette idée très forte, en fait, que on serait face à vraiment une révolution sexuelle 2.0 avec un changement de contexte très important, mais surtout l'apparition de nouvelles normes qui auraient transformé assez radicalement la sexualité. Donc des normes qui sont soit plus libérées, soit plus débridées, selon un peu les voix qu'on écoute. Il y a des visions enthousiastes ou pessimistes, mais il y a en tout cas cette idée que l'Internet permet une forme de désinhibition, voire même, dans les discours plus critiques, un rapport consumériste à l'amour et du coup avec une sexualité un peu toute puissante. Alors de mon point de vue, donc en fait c'est une explication qui on parle de changement dans la sexualité et c'est juste, il y en a eu et je vais vous montrer qu'il y a des vrais changements. Dans l'explication, en fait, on insiste beaucoup sur des nouvelles normes sexuelles. Moi, je vais avoir une explication un peu différente qui est de nouveau insiste sur la privatisation et je voudrais vous montrer un peu comment je raisonne autour de ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des changements des scénarios sexuels, et les changements les plus concrets sont de deux types. D'abord, les rencontres sur Internet deviennent rapidement sexuelles, plus rapidement sexuelles qu'ailleurs, et elles sont souvent de courte durée. Et je vais revenir sur ces deux points en vous montrant à la fois des résultats d'enquête, mais aussi essayer de montrer les logiques en mobilisant de nouveau des extraits d'entretien. Alors, sur le premier point, cette accélération, c'est quelque chose qu'on voit en France, on le voit dans d'autres pays. On pourrait le montrer de différentes manières. Moi, j'ai choisi ce résultat d'une enquête, qui est l'enquête de 2013 qu'on a fait à l'INED, où on a interrogé des couples. Et donc, on avait leur lieu de rencontre et on a ensuite posé des questions sur la temporalité. Donc, on peut comparer les couples selon où ils se sont rencontrés, regarder le déroulement, est-ce qu'il est le même. Donc, ici, vous avez le temps entre le tout premier contact et le premier rapport sexuel, donc selon le lieu. Donc, en gros, c'est, pour faire vite, c'est le temps qu'il faut pour passer à l'acte. Et si vous regardez, donc on peut comparer les lieux, en fait, les sites de rencontre donnent lieu vraiment à une sexualisation très rapide. C'est-à-dire que la moitié des relations qui ont commencé par ce biais ont été sexuelles dans le mois qui suivait le premier rencontre. Et un tiers sont devenus sexuels dans la semaine qui suit le tout premier contact. Et c'est le contact sur Internet, donc c'est même pas le contact physique. Donc ça va très très vite. Il y a d'autres contextes où c'est beaucoup plus lent, pour des raisons assez intuitives. Par exemple, le lieu de travail donne rarement lieu à des relations sexuelles rapidement. En fait, c'est seulement 8% des couples qui se sont formés sur le lieu de travail qui deviennent sexuels dans la semaine. Pourquoi ? Parce que déjà, ce n'est pas un lieu qui est défini comme sexuel. Il faut tout un tas de rapprochements pour essayer de voir est-ce que l'autre est disponible. On ne sait pas s'ils sont célibataires. Mais aussi, en fait, c'est délicat. Il faut transformer une situation professionnelle en situation potentiellement sexuelle. Et ça prend du temps. Alors, sur Internet, ça ne prend pas du temps du tout parce qu'en fait, on sait pourquoi on est là. A priori, on est célibataire. A priori, on se voit pour voir si on peut se plaire. Donc, la situation est d'emblée définie comme sexuelle. Donc, il y a moins d'incertitudes. Et lorsqu'il y a moins d'incertitudes, on avance plus vite. Il y a moins de barrières, si vous voulez, à la sexualisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très net. Évidemment, les usagers en parlent aussi, en fait. Donc, jeunes et moins jeunes, ici, j'ai pris un extrait de Corentin, qui est un jeune homme, qui dit que c'est une différence entre le réel et et Tinder. En général, dans le réel, une fille que tu côtoies dans ton milieu social, tu vas attendre. Vous allez prendre du temps. Ça va commencer par une cigarette. Puis donc, doucement, on parle, vous vous ajoutez sur Facebook, et c'est éventuellement au bout de 2 semaines que tu te lances. Alors, sur Tinder, le temps, c'est un autre paradigme. C'est une autre dimension, ça va plus vite. Donc il y a vraiment ce ressenti d'un peu de sauter les étapes en fait sur Internet. Et je pense en fait ce que ça dit hein, plus généralement en fait je pense que ces plateformes participent à une dissociation croissante entre sexualité et conjugalité. Alors de différentes manières. Parce que ça donne lieu à plein de relations sexuelles qui ne sont pas des couples, donc ça c'est une chose, mais aussi, même au sein des couples, en fait, la sexualité, maintenant, elle arrive très 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 tôt. En fait, dans les années 50, la sexualité est une conséquence de l'union. Dans les années 70, c'est une manière de constituer l'union. En fait, souvent, quand on demandait aux gens « Mais quand est-ce que vous avez formé un couple ?» En fait, c'était souvent le premier rapport sexuel qui était considéré comme le moment où on est devenu un couple. Aujourd'hui, en fait, la sexualité arrive bien en amont de la formation de la relation. Donc, dans un contexte, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Donc, on passe très vite à la sexualité. Je pense que ça participe à un mouvement historique de dissociation entre sexualité et conjugalité. Donc ça, c'est un premier point, donc une vraie accélération des choses, donc une accélération du script sexuel, si vous voulez. Une autre tendance qui est très nette, c'est que les rencontres sur Internet sont souvent des rencontres courtes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rencontres, deviennent sexuelles, mais seule une minorité vont s'inscrire dans la durée. Là aussi, je vous montre un résultat d'une même enquête, en fait, donc en 2013. Donc ça date un peu, mais ça donne l'idée. Je ne pense pas que ça a changé. Ça vous montre en fait la proportion donc, de personnes qui ont été interrogées dans cette enquête qui avaient utilisé une plateforme, et ensuite la proportion qui avait eu une relation mais qui était jugée pas importante, et ensuite la part de personnes qui ont eu une relation jugée importante par ce biais. Et vous voyez, je pense que les taux ont sans doute changé, mais en fait j'insiste sur cette, on va dire, tendance décroissante, c'est-à-dire beaucoup d'usages, beaucoup de rencontres, mais peu de couples. Donc c'est des plateformes qui, on va dire, favorisent une sexualité non conjugale. Alors pourquoi ? Je pense qu'une explication importante, c'est le point juste avant, la temporalité. Dès lors qu'il y a une vraie accélération, que la sexualité arrive très vite, ben ça veut dire qu'il y a plein de relations qui deviennent sexuelles avant qu'on n'a pas forcément cherché à ce que ça soit une relation courte, mais par la force de choses, parfois ça, c'est le cas. Mais je pense, et de nouveau, que ça tient aussi à la spécificité de ces lieux. C'est-à-dire on s'engage plus facilement et plus rapidement avec des partenaires sexuels sur Internet, mais on se désengage aussi beaucoup plus facilement des partenaires sur Internet, justement parce que ça ne porte pas conséquence. Lorsqu'on a une rencontre sur un lieu de travail, voilà, disons que dans une association, en fait, on se pose des questions un peu sur les implications, mais si jamais ça ne marche pas, ça va être délicat, on va se revoir. En fait, sur Internet, on n'a pas à se poser ce genre de questions-là, donc on peut se désengager très, très facilement. Et c'est ce qui est dit aussi des utilisateurs, et notamment des utilisatrices. Donc j'en cite deux. Donc, Alexandra qui dit qu'à la fac, des coups d'un soir, c'est tendu, parce que tout le monde est au courant de tout ce que tu fais, donc c'est un peu gênant. Et la seule fois où j'ai couché avec un mec, tout le monde me l'a répété un milliard de fois. Ou Alix qui dit, mais je ne vais pas sortir avec un mec de la fac parce que je n'ai pas envie de le revoir tous les jours si ça se passe mal. Je n'ai pas envie de le voir avec une meuf si ça se passe mal. Je n'ai pas envie d'avoir des histoires, en fait. Donc c'est pour ça que je préfère que ça soit extérieur. Et donc, le fait que ça soit donc cette extériorité des rencontres par rapport à la sphère sociale, c'est un élément qui peut jouer de façon positive, entre guillemets, en tout cas avoir un attrait pour beaucoup de personnes. Je pense que ça a un attrait tout particulier pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a encore, et je le vois très clairement dans les entretiens, un double standard des sexes, qui veut toujours que la sexualité des femmes soit jugée plus sévèrement. Et des jeunes femmes, encore aujourd'hui, se soucient beaucoup de ce qu'on dit d'elles et de ce qu'on dit de leur sexualité, notamment, par exemple, à la fac. Ou Virginie, qui le dit dans ses termes, elle dit que moi, j'assume mon mode de vie quand je ne veux pas du sérieux. Mais je sais pertinemment bien que ça peut envoyer une certaine image. Je sais que ça peut être taxé de salope ou je ne sais pas quoi. Et c'est une image que tu n'as pas envie de renvoyer. Donc je pense que là, ce que ces plateformes permettent, c'est en fait dissocier l'image sociale qu'on a devant nos collègues, devant nos amis à la fac, devant nos parents, devant nos enfants, etc., et notre pratique sexuelle. Alors ça, c'est un mécanisme qui est très connu pour les sexualités minoritaires. Il y a une raison pourquoi la sexualité échangiste ou la sexualité BDSM a utilisé Internet très vite pour faire des rencontres. Il y a une raison pourquoi les gays et les lesbiennes ont utilisé très vite les réseaux pour se rencontrer. Mais en fait, ça fonctionne plus largement. En fait, cette discrétion des rencontres fonctionne plus généralement pour les personnes dont la sexualité peut être stigmatisée, en premier lieu les femmes. Donc, et je vais finir là-dessus, en fait, je pense, donc vous l'aurez compris, j'ai insisté beaucoup là-dessus, pour moi, en fait, la vraie caractéristique, cette nouveauté, c'est cette insularité, en fait, des plateformes, et je pense que ça a des vrais changements. Mais attention, en fait, pour moi, privatisation, ça veut pas du tout dire dérégulation. Pour moi, c'est pas un lieu où toutes les normes disparaissent, où toutes les règles sautent. En fait, c'est un espace qui est très codé et qui est extrêmement normé. Les présentations se ressemblent toutes, c'est très homogène, il y a une autocensure incroyable, c'est très standardisé, donc c'est pas du tout une espèce de libre cours des désirs. Au contraire, c'est extrêmement régulé. Mais en fait, ce qui change, c'est que le contrôle n'est plus extérieur, mais intérieur. Et je pense que de ce point de vue-là, un autre mouvement historique qui est vraiment un mouvement de fond, en fait, c'est qu'on passe de... On n'a pas une dérégulation de la sexualité, mais des nouvelles instances de régulation de la sexualité, où on est passé d'une régulation qui est plus verticale, donc église, famille, école, sur la sexualité des jeunes. Au cours des années 70, où c'était plutôt une régulation horizontale, donc plutôt les pères, en fait, les jeunes se régulaient un peu entre eux, ou les amis plus largement. Et aujourd'hui, donc avec cette nouvelle espace qui est protégé de regard, le contrôle est intériorisé. Et je pense que ce contrôle intériorisé, il est renforcé. C'est-à-dire que dans le contrôle extérieur affaibli, l'injonction à veiller sur sa propre sexualité, à avoir une bonne sexualité qui soit en conformité avec nos valeurs et nos propres impressions de qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un qui a une sexualité saine ou une sexualité normale, devient d'autant plus forte, en fait. Donc pour moi, la nouveauté, c'est que le gouvernement de soi est devenu le mode de régulation principal de la sexualité, et ces plateformes y participent activement, justement par cette insularité. Donc, dernière précision, et ensuite je conclue très rapidement. Donc, pas de dérégulation, pas non plus de normes de genre qui auraient sauté. Ça, c'est aussi un point très important, parce qu'il y a toujours un peu cette idée que sur Internet, justement, il y aurait un peu une subversion des rôles de genre. Les hommes peuvent se permettre de se faire draguer par les filles, et les filles, en fait, elles auraient plus de le courage pour aller chercher les hommes et se comporter comme des hommes. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Les comportements sont très genrés, extrêmement conformes sur Internet, voire, en fait, on a des normes de genre qui sont exacerbées. Et je vous montre juste une dernière graphique, mais aussi pour vous montrer un petit résultat de ma coopération avec Mythic, qui vous montre des comportements de contact dans 6 pays, sur des plateformes qui sont la propriété de Mythic. Mythic a leur site, mais en fait, ils ont aussi Match, ils ont plein d'entreprises allemandes, ils ont racheté tout le monde, en fait, pour faire vite. Et donc maintenant, en fait, si on regarde les données de Mythic, on peut vraiment comparer les comportements de contact dans plein de pays, sur plein de plateformes, ce que j'ai pu faire donc, dans ce partenariat. Et ce qui est très frappant, lorsque je regarde les comportements de contact, et lorsque je regarde plus précisément le premier contact, qui envoie le premier message ? C'est l'homme. Les hommes contact et les femmes répondent. Donc on est dans une organisation de la cour et de la séduction extrêmement traditionnelle où l'initiative est masculine et que les femmes sont dans une posture de réserve et d'attente vis-à-vis des hommes. On aurait pu croire que c'était disparu, on aurait pu croire que Internet ça va chambouler tout ça. Non, en fait, c'est le contraire. En fait, moi je pense que ces normes sont exacerbées sur Internet. Donc ce que vous voyez ici, si vous regardez le premier colonne, c'est donc la France et les comportements de contact sur Mythic. 9 fois sur 10, le premier message est envoyé par un homme. Et seulement une fois sur 10, donc, c'est une femme qui contacte un homme, en fait, donc, qui prend l'initiative. On aurait pu croire qu'en Scandinavie, moi je suis suédoise, donc j'essaie de faire des comparaisons un peu, et souvent il y a des idées que les Scandinaves, ça se passe très très différemment. Ben, vous voyez que oui, peut-être un peu plus d'initiatives féminines, mais franchement, les différences sont minimes. On a une vraie norme générale d'initiative masculine qui est extrêmement forte. Et point important, encore plus fort chez les jeunes femmes que chez les femmes plus âgées. Les femmes plus âgées sont plus nombreuses à prendre l'initiative, alors que les jeunes femmes sur Internet sont particulièrement dans l'attente et dans la réserve. Donc pour conclure juste très, très rapidement, donc c'était riche. Bon, j'ai voulu faire un panorama, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. En fait, donc pour moi, donc cette privatisation, c'est quoi ? Si je devais résumer, donc je l'ai déjà dit, c'est cette insularité, la dissociation entre réseaux sociaux et réseaux sexuels. C'est la discrétion, c'est-à-dire que c'est des rencontres qui peuvent se dérouler à l'abri de regard. Donc, je suis pas en train de dire que ça reste un secret, que personne n'en parle. Et en fait, les gens qui utilisent ces plateformes, ils aiment bien plutôt parler de ces expériences avec les amis, mais la toute différence entre une rencontre dans une soirée ou sur Internet, c'est qu'on peut décider soi-même si on veut en parler ou pas. C'est ça la différence. Et puis, un troisième point dont j'ai parlé un peu moins, mais c'est aussi qu'avec ces plateformes, la rencontre peut devenir une activité domestique. Pas tout le temps, mais en fait, les premiers contacts souvent se passent depuis le foyer. Donc, c'est aussi une privatisation dans le sens de migration des pratiques, nos pratiques de sociabilité de l'extérieur vers l'intérieur. Évidemment, les confinements ont renforcé cette tendance-là. Il y a beaucoup de choses qui sont concentrées au foyer, et maintenant, y compris les rencontres, dans les premières instances. Donc ça, c'est la privatisation. Donc pour moi, ça a un vrai changement donc des conditions d'exercice de la sexualité, parce que ça accélère et ça favorise donc l'accès à la sexualité, notamment conjugale, et que je pense que c'est un vrai élément saillant, donc en général, mais en tout particulièrement pour des personnes dont la sexualité est stigmatisée. Donc en fait, ma perspective sociologique m'amène à faire un peu un inversement de l'analyse et de l'explication de ce phénomène, parce que souvent on parle beaucoup de normes pour expliquer pourquoi on utilise ces sites et qu'est-ce que les gens font là-dessus, avec cette idée que ce sont les mœurs qui ont changé, ce sont nos idiots, ce sont nos normes qui ont changé, et c'est pour ça qu'il y a, ces évolutions qu'on observe. Moi, j'insiste vraiment beaucoup sur le cadre. C'est-à-dire, moi je vois que le contexte change pas mal les choses, en revanche je vois beaucoup de reproduction de normes. Pour moi, en fait, les normes de genre, de sexualité, il y a des choses qui bougent bien évidemment, mais ça bouge moins que les pratiques. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, ça m'amène, donc c'est un constat empirique de mon point de vue, mais c'est dans l'interprétation, ça veut dire que je vais être dans une analyse où j'insiste moins sur les facteurs, on va dire, idéationnels. Les choses bougent parce qu'en fait, on pense différemment, on vit les choses différemment, mais plus contextuel et matériel, en fait. C'est-à-dire les conditions d'exercice et des conditions de la sexualité, les conditions de rencontre ont changé. Et du coup, on fait aussi des choses différentes et ça va aussi faire bouger un peu nos attentes. Donc, c'est une autre perspective qui est, on va dire, oui, plus interactionnelle, peut-être plus contextuelle, plus matérialiste qu'une explication par une transformation des normes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.